J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim.
Grand bien vous fasse.
Joe, quand est-ce qu'on mange? J'ai faim.
Ali Rebéi.
Midi 5, c'est pour ça que j'ai faim comme ça. Je mangerai un âne.
Sur France Inter.
11h-25, quels sont les réels bienfaits du jeûne et des cures détox? Élément de réponse avec nos experts médecins et naturopathes. Le standard, vous êtes ouvert au 01-45-24-7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Beaucoup de questions qui vont dans le même sens. Est-ce qu'il existe des études scientifiques qui montrent que ces cures détox et monodiètes améliorent le diabète de type 2, la santé cardiovasculaire, le taux de cholestérol ou de triglycérides dans le sang? Professeur Antoine Avignon, vous êtes endocrinologue.
Oui, je l'avais évoqué et tout à l'heure, des expériences chez l'animal, oui. On a des arguments chez l'animal, sur des modèles in vitro, oui. Chez l'homme, il y a quelques études qui sont pas randomisées comme il faut, qui sont avec des petits nombres de patients. Donc, il y a des traces d'études, oui, mais rien de sérieux.
Alors, on va s'intéresser au jeûne. Que se passe-t-il, tiens, au début d'un jeûne? Écoutons un extrait du documentaire « Le jeûne, une nouvelle thérapie ».
Le corps dispose de trois carburants, le glucose, les lipides et les protéines. Le carburant essentiel, c'est le glucose, celui dont le corps a absolument besoin pour fonctionner. Le cerveau ne peut s'en passer. Mais après un jour de jeûne, le stock de glucose est épuisé. Comment l'organisme va-t-il s'adapter? Il va très vite fabriquer du glucose, à partir des protéines, c'est-à-dire surtout les muscles. Il va aussi puiser dans ses réserves de lipides, les graisses, pour créer un substitut de glucose. Ce carburant du jeûne se nomme corps cétonique. Ce sont désormais ces corps cétoniques qui vont principalement alimenter le cerveau. L'opération s'effectue dans le foie, véritable usine de transformation de l'organisme.
Extrait du documentaire « Le jeûne, une nouvelle thérapie » de Thierry Delestrade et Sophie Guillemant. Thomas Hull, pouvez-vous nous expliquer ce qu'il se passe après cette cétogénèse dans le foie? Je rappelle que vous êtes naturopathe et spécialiste du jeûne et randonnée.
Merci. Alors, nous avons en effet ces trois étapes, la glycogénèse, donc, qui vient d'être expliquée, la néoglycogénèse, où on passe dans les réserves, finalement, de graisse. Il est intéressant, et c'est dans ce même documentaire où ils indiquent à un être humain d'1m70, 70 kilos à 40 jours de réserve de graisse devant lui, et un être humain à 1m70, 90 kilos, 100 jours. Donc ça, c'est pour nous rassurer déjà sur l'expérience de 1 jour, 2 jours ou 5 jours de jeûne. Mmh. On a normalement, selon nos indices de masse graisseuse, des IMC, de masse corporelle, suffisamment pour la plupart d'entre nous de réserve pour tenir. Et dès qu'on rentre dans cette phase après cétonique, qui est un peu plus tard, qui n'est pas tout de suite, qui est plutôt au 4e, 5e jour, on rentre dans un aspect beaucoup plus anti-inflammatoire notamment, et également avec un léger état euphorique, qui est souvent traduit par les jeûneurs arrivés au dernier jour de jeûne. Alors, comment qui est lié notamment au corps cétonique.
Comment se prépare-t-on à un jeûne de 4 ou 5 jours? La préparation est aussi importante que le jeûne lui-même, et quelles sont surtout les contre-indications?
Bien sûr, alors commençons par les contre-indications. Toute personne déjà n'ayant pas l'IMC suffisant, qui sont notamment en sous-poids ou en sous-nutrition, devrait écarter le jeûne en tant que tel. Ensuite, toute personne qui a vraiment des pathologies lourdes, des traitements chimiques lourds, se verrait justement également contre-indiquer une pratique de jeûne. Après, c'est intéressant également de se renseigner auprès de son médecin, de voir qu'est-ce qui est adaptable ou pas. Bien sûr, les femmes enceintes également ne privilégieront pas le jeûne à ces moments-là. Et ensuite, on a vraiment l'indicateur de vitalité. Alors ça, c'est à double tranchant, parce que parfois, on est épuisé, et si on jeûne, on se sent mieux. Mais généralement, si on est très fatigué, il vaut mieux d'abord essayer de retrouver de la vitalité plutôt que de commencer un jeûne qui est lui-même peut-être un peu éprouvant.
Alors, on commence pas un jeûne de n'importe quelle manière. La veille, on ne se tape pas une entrecôte frite avec de la béarnaise et un Saint-Honoré. Non. Ça se prépare un petit peu en amont.
Ça se prépare au moins 5 jours avant. Mmh. Et 5 jours avant, on enlève justement alors les excitants, même s'ils sont bons pour la santé. Il y a quand même une logique après qui se joue au niveau de la circulation sanguine, au niveau de la pression artérielle avec les excitants, et qui peut engendrer notamment des maux de tête quand on enlève les excitants ou le sucre ou l'alcool. Donc,
quels aliments privilégient, Thomas Hull?
Oui, alors, on enlève, excusez-moi, Ali, on enlève d'abord les excitants, les viandes rouges, les produits laitiers, les céréales, pour privilégier justement les deux jours avant la cure, simplement des fruits et des légumes de saison, que ce soit cru ou cuit, et on boit énormément, on s'hydrate énormément. Ça, c'est très important.
Docteur Patrick Serogue, votre regard sur le jeûne de 4 ou 5 jours, le jeûne préventif quand on n'est pas malade et qu'on voilà, on a envie de régénérer son corps pour X raisons.
Il n'y a pas de danger à faire un jeûne de 4-5 jours si, on, comme d'habitude, on ne le répète pas de manière fréquente. Nonobstant les contre-indications qui ont été dites. Maintenant, si c'est pour juste se détoxifier, c'est bien. Si c'est... dans une, dirons-nous, dans un besoin de perte de la masse grasse, ça c'est tout à fait une autre histoire et ce sont des considérations beaucoup plus individuelles. Donc, moi personnellement, je ne trouve aucune contre-indication particulière à des jeûnes courts. Là où c'est dangereux, c'est lorsque ça se répète.
Professeur Antoine Avignon.
Oui, moi je ne sais pas ce que ça détoxifie, ça. Moi j'attends les démonstrations scientifiques. Par contre, tout ce qui est fait dans un intérêt de prendre soin de soi, si c'est fait dans ce sens-là, je n'ai pas d'opposition. Mais encore une fois, attention à la pression de la société sur la minceur. Et si c'est des solutions minceurs, ça je suis complètement opposé. Il faut vivre avec son corps et pas le contraindre en permanence.
Professeur Gabriel Permutter, je rappelle que vous êtes hépato-gastro-entérologue. Où en est la recherche scientifique sur le jeûne thérapeutique? En 2019, tiens, le docteur Françoise Wilhelmi et son équipe de la clinique Buchinger en Allemagne ont observé 1422 sujets qui ont suivi un régime d'abstinence sur des périodes comprises entre 5 et 20 jours. L'étude publiée en ligne par la revue PLOS ONE montre une nette amélioration du métabolisme avec une réduction de la pression artérielle, des taux de cholestérol et des triglycérides. Et des chercheurs, ces mêmes chercheurs, ont constaté une amélioration du bien-être chez 84% des sujets souffrant d'une maladie chronique comme le diabète de type 2 ou d'une stéatose hépatique qu'on appelle également NASH. Cette stéatose hépatique est caractérisée par un excès de graisse dans le foie. Voilà une étude récente que j'ai pu relever, mais il y a très très peu d'études, elles sont parcellaires. La recherche publique ou privée ne finance pas ce type de recherche sur le jeûne thérapeutique. Qu'est-ce qu'on sait tout de même de fiable?
Non, mais il y a une certaine logique. Là, vous voyez, on parle de patients, donc des personnes qui ont une maladie du foie, un diabète, un syndrome métabolique, et ça veut dire que ces personnes-là sont déjà, quelque part, à un moment donné dans leur vie, ont été dans l'excès. Quand vous mettez ces personnes en jeûne ou en cétose, dans des modèles animaux, on sait que la cétogénèse produit aboutit à la production de corps cétoniques qui vont avoir une activité anti-inflammatoire, antioxydante, voire anticancéreuse, et que globalement, quand on met des animaux en restriction alimentaire, on augmente leur espérance de vie. Donc il y a une logique à vouloir effectivement faire ce type de restriction chez les personnes, d'autant plus qu'elles sont dans l'excès et qu'elles sont malades. Et donc il est également logique que quand vous avez une personne qui a du gras dans son foie, vous la mettez en restriction, le gras va disparaître, le diabète va s'améliorer, et ça c'est tout à fait normal. Ce qui est important, c'est que l'organisme a une mémoire, et ce qui va se passer au moment où cet effort va être relâché. Vous mettez par exemple, ça a bien été montré sur le microbiote intestinal, sur les bactéries digestives, quand vous faites maigrir une souris, et qu'après vous lui redonnez une alimentation juste normale, pas forcément surpoids, ces bactéries vont avoir la mémoire de comment elles étaient avant pendant un certain temps, et on ne connaît pas ce laps de temps, il faut mettre une pression dessus, et ça va expliquer le fait que vous allez d'un seul coup reprendre du poids, voire plus, et c'est la base de l'effet yo-yo qu'on connaît sur les différents régimes, il faut y faire très attention. Mais c'est exact que ces restrictions vont avoir un effet au moment où elles sont faites, favorable sur le métabolisme et sur le foie.
Vous parliez du microbiote intestinal. Quels sont les effets sur le microbiote d'un jeûne court de 4 ou 5 jours ou d'une détox? Est-ce qu'il y a des effets connus sur la qualité du microbiote?
Alors, sur un jeûne court de 4 jours chez l'homme, à ma connaissance, non. Et je dirais que ça n'a pas d'intérêt à faire, parce qu'on peut très bien anticiper qu'en 4 jours, soit il se passe rien, soit ça s'améliore. Ce qui est intéressant à faire, c'est de voir sur le long terme, est-ce qu'on arrive à améliorer ou pas le microbiote intestinal. On sait que quand les personnes, on arrive à leur faire perdre beaucoup de poids, on améliore le microbiote intestinal. On rentre dans un cercle vertueux, le microbiote va aider à faire perdre du poids.
Antoine Avignon, je rappelle que vous êtes endocrinologue.
Alors, il y a une publication tout à fait récente, et c'est pas la seule, il y a des publications qui montrent même qu'il y a un risque rythme circadien du microbiote et que les bactéries dans le tube digestif changent au cours de la journée et que, effectivement, y compris des jeûnes courts peuvent entraîner quand même certaines modifications. Après, ce que je voudrais dire, c'est quand même que le nombre d'arguments scientifiques pour dire qu'une alimentation restreinte en calories est favorable à la santé, ça, il y en a des tas. Les populations qui vivent le plus longtemps, si on cite la population d'Okinawa, la première spécificité de la population d'Okinawa, c'est d'avoir une alimentation très restreinte en calories. La question qui se pose, effectivement, comme ça vient d'être dit, ça sert à rien de prendre quelqu'un qui est malade et de le mettre à un jeûne pendant 5 jours si derrière, il n'y a pas d'accompagnement pour comment changer mon alimentation sur le long terme. Et mon alimentation, ça n'est pas qu'un rapport à l'aliment, c'est un rapport à la société, c'est un rapport au stress, c'est un rapport à tout un tas de choses. Donc c'est une prise en charge globale, holistique, qui ne se centre pas simplement sur des conseils nutritionnels et alimentaires.
Tiens, je cite une autre étude récente publiée dans Nature, du biologiste Takayuki Teruya de l'Institut des sciences et technologies d'Okinawa. Selon ses études, le jeûne accélère le métabolisme et entraîne la libération de molécules antioxydantes. C'est une étude menée par 4 volontaires qui ont jeûné entre 34 à 58 heures. Docteur Serog, vous vouliez intervenir sur les bienfaits du jeûne éventuel?
Non, je ne vais pas intervenir. Non, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Avignon. Quand on fait un jeûne, il faut que ça soit dans un projet.
Global.
Global, et pas uniquement faire le jeûne pour se détoxifier. Mmh. Ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut changer peut-être son stress, son environnement, et manger différemment sur le long terme.
Bonjour Catherine, bienvenue.
Bonjour.
Alors, quel est votre témoignage ce matin?
Alors moi, je pratique le jeûne intermittent. Je voudrais dire surtout que je n'en fais pas la publicité parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé qui était bon pour moi. Mais moi, je peux le faire facilement, notamment parce que maintenant j'ai 56 ans, je n'ai plus d'enfants à la maison, donc j'ai plus à préparer de repas de soir, par exemple. Enfin, c'est plus... Voilà, je voulais simplement dire que je ne fais pas du prosélytisme pour le jeûne intermittent. Simplement, c'est bon pour moi. Pourquoi c'est bon? D'abord parce que moi j'avais une candidose chronique et des infections urinaires, des cystites qui revenaient régulièrement. Et je me suis rendu compte, de manière empirique, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais de manière empirique, je me suis rendu compte qu'avec plus j'avais de sucre et lorsque je buvais un peu aussi, notamment du vin blanc, ça réactivait cela. Et depuis que j'ai diminué mes apports en sucre, mes apports en alcool, j'ai réussi à de manière naturelle, en ayant beaucoup moins recours aux médicaments, de réguler ces deux inconvénients. Et ce qui me confirme un peu dans mon hypothèse empirique, c'est que là, avec les fêtes, j'ai fait des excès, j'ai rompu le jeûne intermittent parce que socialement, c'était compliqué, j'ai bu beaucoup plus, et ça m'a réactivé à la fois la candidose et j'ai eu à nouveau une cystite. Donc là, je fais détox de janvier en réactivant et en reprenant mon jeûne intermittent, qui me convient très bien, qui m'amène plus de vitalité et qui me permet aussi à moi de garder mon addiction à moi qui est le chocolat noir.
Je la comprends.
Donc, mon addiction au chocolat noir, je peux l'assouvir sans aucun problème grâce au jeûne intermittent. Ce que je pouvais pas faire avant parce que j'en mangeais par exemple le soir et à 56 ans et étant ménopausée, j'avais remarqué que je prenais beaucoup de poids. Depuis que je ne mange plus mon chocolat le soir à 21h ou à 20h, et j'ai aussi en bénéfice associé, j'ai régulé ma prise de poids. Donc je ne dis pas que j'ai maigri, je veux pas faire la pub du jeûne intermittent pour maigrir, mais j'ai régulé ma prise de poids. J'ai stabilisé ma prise de poids.
Professeur Antonin Avignon, redites-nous en quoi consiste le jeûne intermittent que l'on appelle également fenêtre d'alimentation restreinte. Donnez-nous un exemple concret de ce qu'est le jeûne intermittent ou séquentiel.
Alors, je peux me permettre de répondre
de répondre
à Catherine parce que j'apprécie beaucoup la manière dont elle est intervenue et je trouve ça très très bien. Déjà, je partage la passion du chocolat noir, donc c'est déjà un premier point, c'est pour ça que je l'apprécie, mais pas uniquement parce qu'elle a dit j'ai fait pour moi, j'ai observé pour moi et nous sommes tous particuliers et ça c'est important. J'observe pour moi, je fais pas le prosélytisme pour les autres. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Donc les jeûnes intermittents qui ont été démontrés comme ayant un intérêt est sur le plan scientifique. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y en a deux principaux, c'est le 5-2. C'est donc 5 jours d'une alimentation qui est une alimentation, je dirais, qui est quand même, j'aime pas trop ce terme, mais qui est quand même équilibrée. Mmh. Et puis 2 jours où je restreins fortement, voire je jeûne complètement par semaine. Plutôt pas consécutif ces 2 jours. Et puis, il y a le 8-16, donc je concentre ma période de prise alimentaire sur 8 heures et je reste 16 heures sans manger.
Alors tout à l'heure, il a été... Concrètement, on saute par exemple le dîner et on déjeune le lendemain midi.
Si on saute le dîner, non. On va prendre le petit déjeuner. On saute soit le dîner, soit le petit déjeuner.
Voilà, c'est ça.
En sachant que les études ont montré que sauter le dîner était plutôt un peu plus favorable.
Il n'y a pas de grande différence. On saute le dîner. On dîne.
Soit on ne dîne pas. Voilà. Soit on ne petit déjeune pas.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et la cétose, puisque les corps cétoniques, ça a déjà été dit plusieurs fois, ont des effets très favorables sur la santé. La cétose met pas 4 jours à apparaître. Hein. Là, c'est pareil, on est tous variables, mais c'est entre 12 et 16 heures. C'est pour ça qu'on conseille 16 heures, parce que chez la majorité des personnes, c'est 16 heures. Et ce qu'on recherche, c'est la production de corps cétoniques qui ont tout un tas d'effets favorables.
Professeur Perlmutter, sur le jeûne intermittent?
Non, je suis d'accord avec CATD. Je ferais une remarque. Je trouve qu'en termes de biorythme, il est plus logique de sauter le dîner que de sauter le petit déjeuner, où l'organisme se remet en route, où il y a eu des prix Nobel sur le biorythme, où ça me semble. Et dans l'expérience que j'ai, ça c'est pas scientifique, c'est mon expérience, les personnes qui ont des maladies du foie liées à l'alimentation, c'est le petit déjeuner qui souvent est raté. Et je pense que la journée démarre mal. Mais ça c'est mon expérience personnelle.
Patrick Sarogne.
Alors mon expérience est un peu différente, c'est variable en fonction de chacun. Il y a des gens le matin qui ne peuvent pas manger, ça les arrange beaucoup de faire un jeûne intermittent et d'attendre les 16 heures, et il y en a d'autres au contraire qui le soir n'aiment pas trop manger parce qu'ils vont mal dormir, parce qu'ils se sentent moins bien, ils se sentent lourds, et préfèrent sauter le dîner. Donc je veux dire que là, c'est vraiment une adaptation par rapport à chacun d'entre nous.
Merci beaucoup Catherine de nous avoir appelé. On continue à s'intéresser au détox, au jeûne, dans quelques instants, après avoir écouté Hills qui interprète Steam Engine.